3.
État d'alerte jaune déclenché par toutes les stations. Capitaine, je capte une espèce de signal radio subspatial.
Passez-le sur écoute.
Analyse, monsieur Dattard.
Les détecteurs relèvent de nombreuses fluctuations gravimétriques assez inhabituelles.
Inhabituelles, c'est-à-dire précisées.
Quelque chose de jamais.
Et bonjour tout le monde, bienvenue à ce Parlons Trek en direct, nouvelle formule pour une nouvelle année. Oui, on est disparu au cours des derniers mois, on en est désolé. La vraie vie suit son cours, travail, amis, famille et tout ça. Noël est jour de l'an. Et nous revoici en grande force, malgré les effectifs légèrement réduits. Mais tout aussi compétent.
on est suffisant, là. Nos égos aussi prennent de la place.
Vous aurez reconnu la magnifique voix de Pierre Courtemanche. Et toujours
et
avec
moi,
mon cher Marc. Bonjour.
Bonjour. Marc. Ça va bien.
Ceux qui nous regardent sur Facebook Live, oui, parce que on est de retour sur Facebook Live maintenant qu'on sait comment s'en servir comme il faut. On a une belle interface, on a des belles webcams, on peut montrer des trucs maintenant. Le podcast sera toujours disponible en format MP3. Tout de même pour ceux qui préfèrent dans ce format. Mais on s'est dit qu'il y a quelque chose de le fun à faire ça en direct, un petit peu d'imprévu. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est interagir avec les gens. Donc, n'hésitez pas à interagir, liker, partager, surtout partager, très important, et commenter. N'hésitez pas à nous à intervenir quand on dit des conneries, ce qui risque d'être souvent, et à nous faire part de vos opinions. Et on a un horaire, on est chanceux parce que justement aujourd'hui, c'est comme la meilleure journée pour commencer un nouveau podcast avec la grosse nouvelle qui est une autre série Star Trek qui est en chemin. Écoute, c'est-tu une belle époque pour être un fan de Star Trek où ça n'en est pas une, mes amis?
Je suis ravi. Donc, d'ailleurs, on est tous en uniforme pour l'occasion.
Ben oui, écoute, moi j'ai sorti mon beau scan. Pierre est avec son top de Voyager et Marc est dans son Kelvin Timeline Command Shirt. Donc, écoute, on profite de ce magnifique médium. Donc, c'est...
Je dirais même extra large.
Donc, comme je dis, ça fait longtemps que les rumeurs circulaient, que l'idée avait comme... J'ai l'impression qu'on comme... fait glisser l'idée par pour juste pour voir la réponse des gens, puis là finalement ils l'ont annoncé pour de vrai. Donc on va avoir une série avec Michelle Yeoh qui va continuer son rôle de l'empereur Georgiou et maintenant agent section 31. Est-ce que ça vous plaît? On s'entend, ça va être un départ complet de ce qu'on a déjà vu pour une série Star Trek. Est-ce que vous, ça vous titille le Trekkie?
Ben, c'est sûr que ça me titille, moi. déjà là, une actrice que j'adore, un show qui va être runné par des femmes. Je pense que c'est le premier show qui va être runné par une...
Oui, Erika, ça va être Erika Lippold et Bo Yeon Kim.
Et Yeon Kim.
Qui, d'ailleurs, on leur doit le magnifique The Brightest Star, qu'on en jasera tout à l'heure, mais ils ont beaucoup de potentiel, beaucoup de talent. J'ai bon espoir. Moi, tu sais, ceux qui connaissent, ceux qui avaient vu Agents of S.H.I.E.L.D., de oui. Marvel. Je m'attends peut-être quelque chose qui ressemble un peu à ça. Mais tu sais, on s'entend version un peu plus agent secret, mais je vois quelque chose dans ce genre-là.
Est-ce que Georgie va être comme une May?
Possiblement. Là. Mais honnêtement, j'aimais beaucoup le rôle de May dans Agents of S.H.I.E.L.D. Je pense qu'elle aurait facilement pu prendre la place que Georgiou prend présentement dans Agents of S.H.I.E.L.D. Mais bon, il y avait déjà Coulson sur le chemin. Là.
Mais moi, je veux plutôt dire que c'est Michelle Yeoh que je suis surtout content. Parce ouais. que c'est vraiment une actrice de talent qui a énormément d'expérience. Qui en plus est une championne en arts martiaux. Ouais. Elle a de sa cravate des choses extraordinaires. Elle a été Bond Girl, puis genre la seule Bond Girl qui a jamais tombé pour James Bond. Mm-hmm. Ça veut tout dire. C'est James Bond qui est tombé pour elle et non pas l'inverse. Alors, genre, c'est la James Bond qui a aussi traité James Bond de Fuffy.
Faut dire aussi que Jackie Chan a mentionné qu'il avait peur d'elle, tellement elle oui. était bonne.
Oh oui. Oh oui. Il a toutes les raisons de l'être.
Donc, est-ce que vous avez des attentes? Qu'est-ce que vous aimeriez voir que vous n'aimeriez pas voir dans une série qui porte sur un sujet aussi particulier?
Moi, c'est sûr que les puristes, ils vont peut-être m'haïr, mais moi, je veux quelque chose vraiment à la James Bond. T'as raison. Okay. C'est la section 31, c'est une section secrète. Je veux des missions secrètes, des missions qui soient dark. Georgiou est dark, alors elle n'hésitera pas à faire des affaires croches, là. Elle ne peut pas être bonne.
Moi, j'espère qu'ils vont faire un peu comme... Le début du premier épisode de l'univers miroir pour Enterprise. Tu sais, okay. quand tu revisites l'arrivée des Vulcains sur la Terre, puis finalement, l'autre qui sort un shotgun. Genre, tu sais, exactement ça. Tu sais, j'aimerais ça qu'il... Ben, il avait fait ça aussi, je pense, dans Deep Space Nine. Qu'il avait revisité un ancien épisode, qu'il avait retourné par-dessus, puis etc. Puis, tu sais, avec la technologie qu'on a à cette heure, ça devrait tellement être facile de faire ça. En tout cas, beaucoup plus facile.
Ben, c'est
genre,
sûr que...
être capable de faire des trucs extraordinaires, genre rendre quelque chose qui a déjà été fait, voir le côté dark... puis en arrière-plan pour faire marcher quelque chose. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes de même à voir. Moi, ce serait ça que j'aimerais voir.
Oui, en effet. Moi je suis bien d'accord dans le sens que moi j'ai une philosophie de l'utopie Star Trek ne peut pas fonctionner en elle-même. Elle pourrait fonctionner, ça serait totalement isolé dans sa bulle, tu sais, dans son univers à lui-même, mais une utopie qui est entourée de Klingons, d'espèces extraterrestres avec des intentions plus ou moins claires, c'est utopique de penser qu'une utopie peut survivre juste avec le bon vouloir et vouloir être ami avec tout le monde. En fait, le premier épisode de Discovery nous a montré ça marche pas. On a beau avoir toutes les meilleures intentions du monde, tu vas toujours avoir, dans l'univers de Star Trek, tu vas toujours avoir quelqu'un qui va vouloir te conquérir. Et je pense que c'est quelque chose qui a bien été illustré dans l'épisode de section 31 de Deep Space Nine, et même un petit peu d'Enterprise, c'est que tu veux une utopie, tu veux bien vivre, mais écoute, faut payer le prix. Je pense que ça, c'est une réalité que beaucoup de fans de Star Trek sont pas prêts à réaliser. Et c'est malheureusement la nature de la chose. Tu veux quelque chose de parfait, ben en arrière-plan... C'est même présentement, tu sais, je veux dire, quand tu regardes l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, tous les gens qui se sont sacrifiés, qu'on connaît pas leur nom, les agents secrets, on parle Code Enigma et tout ça, y a une tonne de gens qui ont sacrifié leur vie qu'on ne connaîtra jamais leur nom, on saura jamais c'est qui, mais tout ce qu'on voit, c'est ce qu'ils ont fait, tu sais, les conséquences de leurs actes plus tard, donc... Parce que moi, je suis un petit peu philosophique présentement, mais c'est quelque chose que... Avec la nature humaine, faut comprendre un petit peu, là.
Ouais, ben moi, je vois plus ça comme une évolution. Le peuple va évoluer, il commence en bas, puis genre, de plus en plus, ça va se rendre à où est-ce que c'est rendu à l'époque de l'Enterprise E, tu sais, des Space Nine, etc. Il y a des bouts que c'est plate, mais qui n'ont pas le choix de passer par des guerres, des choses comme ça. Mm-hmm. Mais tu sais, encore une fois, ils défendent leurs idéaux.
Et voilà.
Ils avancent dans la société, ils défendent leurs idéaux contre d'autres idéaux. Puis le pire, c'est qu'un de leurs idéaux, c'est de respecter les idéaux des autres. Mm-hmm. C'est encore plus dur. C'est pour ça là, qu'il a réussi en seulement 200-300 ans à se rendre où ils sont. C'est déjà un fichu miracle parce qu'en 100 ans, à quel point qu'on a évolué? Beaucoup. Mais est-ce qu'on a tant évolué que ça? Puis en même temps, on peut regarder d'autres civilisations qui sont sur notre propre planète qui, d'un certain point de vue, n'ont pas évolué autant que ça. Je ne nommerai pas de civilisation parce qu'ils ont l'Internet eux autres aussi. Mais on s'entend que de leur côté, c'est ça, ils n'ont pas développé cette technologie-là. Ils ne l'utilisent que parce qu'elle est disponible à travers toute la planète. Mais cette culture-là, n'a pas, elle est peut-être pas encore, ces cultures-là ne sont peut-être pas encore assez évoluées, mais il évolue, tu sais. En plus, on peut pas dire non plus qu'une civilisation plutôt qu'une culture évolue de part uniquement en elle-même alors qu'elle est en contact avec d'autres, puis surtout pas que tous les membres d'une civilisation vont tous évoluer au même niveau. Il y a plein de gens qu'on connaît qui font partie d'autres peuples qui sont beaucoup plus évolués que ce que publiquement leur peuple est. Tu sais. En tout cas, on fait pas de la politique ici.
Ben, écoute, on peut faire dans la nature de Star Trek un peu de philosophie et d'humanisme, mais quand même. Oui.
Mais d'habitude, c'est pas moi qui sors ça. Ouais,
c'est bien, moi, Pierre, tu vois. On a une bonne influence sur toi, là. Profite-en.
Hey, j'ai sorti ça par moi-même, là. C'est pas une question d'influence.
Ouais, ben, Eric, t'aurais-tu sorti ça si t'aurais pas été présentement avec nous autres dans cet instant présent, là, là?
Oui, mais tu sais, dans une soirée autour d'une coupe de bière, tu sais.
Aïe, aïe, aïe. Sinon, ben c'est ça. Donc, durant la saison 2, on va voir Georgiou se développer dans la section 31 et j'imagine, on n'a aucune date présentement, mais on imagine 2020. Là, si la série Picard commence à filmer en avril, moi, je verrais comme milieu, fin 2020. Là. En tout cas, on verra bien. On va espérer que tout se passe bien. J'imagine qu'ils vont filmer. En tout cas, vu que ça se passe dans l'univers et dans l'époque de Discovery, il y a des bonnes chances qu'ils soient filmés aussi à Toronto. Donc, ce qu'on verra comment ça se développe. Mais c'est quand même, écoute, là, on a présentement, pensez-y, là, 5 séries de Star Trek, dont 4 en développement. On a Discovery, la deuxième saison qui commence cette semaine. On a Star Trek, la série avec Captain Picard. On a la série Section 31 avec Michelle Yeoh. On a une série animée avec le Mike McMahon. Si vous avez vu Rick and Morty.
Ah. Ouais, mais elle est prévue pour quand?
Il n'y a pas de date encore. Mais ils ont commandé deux saisons directes. Fait qu'ils doivent y faire confiance en tabarnouche.
Ouais.
Et il y a aussi une autre série animée, on n'a aucun détail. On sait qu'il y a une série animée qui est plus axée jeunesse, qui est en développement présentement aussi.
Ça, le développement. C'est...
Ouais, mais le fait est que. Vu qu'il en parle publiquement, ça veut dire qu'il y a des bonnes chances que ça se réalise. T'sais, c'est pas une rumeur, ça a été mentionné par Alex Kurtzman.
Combien de fois? Ghostbusters 3 a été publiquement dit que ça s'en vient.
Ouais, mais
30 ans qu'on l'attend. OK.
Ouais. Mais Pierre,
permets-moi de doucher ton enthousiasme avec
Pierre
avec un barrage hydraulique. Bon.
Ouais, mais la chose étant qu'Alex Kurtzman est présentement en bonne position pour livrer ce qui tu sais, il y a deux. Je suis pas mal certain que, comme je te dis, j'ai hâte de voir les détails, mais une série jeunesse, ce serait le fun justement pour apporter un peu, encore un petit peu plus de sang frais à la franchise. Là, on s'entend, c'est pas avec, c'est plate à dire, c'est pas avec Star Trek Next Generation que présentement on va tirer qu'on va tirer les jeunes. Là, je dis pas que c'est impossible, mais la plupart des jeunes présentement qui découvrent Star Trek, ils l'ont découvert, leur porte d'entrée, ça a été les films du Kelvin Universe. Faut faire comme les cigarettes puis Nintendo, les pogner pendant qu'ils sont jeunes.
Ben, une chose est sûre, là, présentement. Mm-hmm. Star Trek n'a jamais été aussi vivant. Là. Même quand il y avait les trois séries à l'époque, ils n'ont jamais pratiquement été ensemble à part les 4-5 années qu'ils l'ont été. Là, mais il n'y a jamais plus que deux séries en même temps. Là. Mm-hmm.
Deux séries puis des films, bien entendu.
Ouais. Les films, je pense qu'on peut faire un trait là-dessus présentement. Chose étant que, évidemment, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais... » trop de séries en même temps, ils vont s'essouffler, ça va faire fatigue de franchise. Et moi, je dis non.
Ça a pris du temps à Stargate avant de s'essouffler.
Mais une chose qu'on a présentement que Stargate et Star Trek n'avaient pas à l'époque, c'est tous les services de streaming. Dans le sens que au lieu d'avoir une série de 26 épisodes, tu vas avoir trois séries de 15 épisodes.
Ouais.
Et t'es pas obligé de tout diffuser en même temps. Avec la liberté du streaming, t'es pas restreint à des cases horaires, à sortir ça exactement en automne pour le début de la saison de télévision. Tu peux ajuster tes releases justement pour pas que ça se fasse concurrence entre eux autres.
En un mot, profiter des nouvelles habitudes d'écoute du public.
Et voilà! Profiter du marché. Profiter.
Puis faire des saisons plus courtes qui vont être sorties plus vite mais qui vont, puis qui vont donner, c'est ça, quelques membres vont permettre de... c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. Ben,
c'est sûr qu'il faut prendre ça du point de vue américain, dans le sens que ça va, évidemment, tout ça va être sur CBS All Access aux États-Unis. Et le but de CBS All Access, c'est de garder leur auditoire, de garder leurs abonnés à longueur d'année. Fait que c'est sûr que si tu vas avec Star Trek à longueur d'année, tu gardes une bonne portion de tes trickies, si tu les gardes à longueur d'année. Puis là, ils travaillent en plus sur une nouvelle série de Twilight Zone. Il y a d'autres séries sur lesquelles ils travaillent présentement aussi. Donc, il y a beaucoup de potentiel à développer pour leur plateforme. Et je l'ai déjà dit, je vais le répéter, mais je félicite CBS là-dessus parce que c'est le seul grand réseau américain qui pense vers l'avenir. Ben, je dirais pas le seul, mais c'est le premier qui prend un pas aussi dans la bonne direction. Dans le sens, il voit que son auditoire télévisuel est pas dans la démographique jeunesse, t'sais, dans la démographique 25-30, 25-35, 25-40 ans. Donc, ils essayent de se rattraper avec les services en ligne ou ce qu'ils savent qu'ils vont être capables d'évoluer dans le futur. Parce qu'oublions pas que selon Star Trek, la télévision passera de mode d'ici les années 2040.
Ouais. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. V'là, à l'époque que Next Generation jouait, on aurait pu sérieusement en douter, mais maintenant, ça étonne personne. En 2040, que la TV n'existe plus.
Non, c'est ça.
Bah, c'était pauvre, en tout cas, tu sais.
Ben, tu sais, la télévision traditionnelle, on s'entend, tu sais, la télévision, parce qu'il faut que t'attendes, tu t'assoies puis t'attendes la diffusion de l'émission, là, tu sais. Moi, honnêtement, on est en 2019, là, dans 20 ans, je suis pas mal certain que la télévision hertzienne, ça va être sur ça va être comme la radio AM aujourd'hui, là.
Ben, la radio AM est encore vivante et juste sur le respirateur artificiel.
Ça sert mais, au poste pour donner le trafic, puis c'est pas mal ça.
C'est ça. Tu sais, ce qui fait vivre la télévision, c'est les annonces. Mm-hmm. Mais ce qui fait vivre Internet, parce que c'est les annonces, c'est des commanditaires, tu sais, qui vont faire des annonces,
sur
évidemment.
Internet, c'est trois choses. T'as les annonces, parce que sur CBS All Access aux États-Unis, je parle de service aux États-Unis présentement. Service aux États-Unis de CBS All Access, t'as deux paliers. T'as le palier à $5.99 où ce que tu payes, jusque t'as tout le contenu, mais tu vas avoir des annonces. Et t'as $9.99 où ce que t'as pas d'annonces. Donc oui, il y a encore. Sauf que c'est sûr que ils vont couvrir le manque à gagner avec les annonces, avec ceux qui sont pas prêts à payer le full prix. Mais ils vont sont quand même moins au pied et au moindre désir des annonceurs. Ce qui est une grande liberté. On s'entend.
Je sais pas pour vous, mais ceux qui ont. Tu sais, mettons, je regarde une vidéo sur mon cellulaire. Là. J'ai pas d'adblocker, ça existe pas. Mm-hmm. Mais sur mon ordinateur, ça existe. Fait que, genre, j'écoute une vidéo, j'ai une annonce pendant que je regarde. J'ai clairement aucune espèce d'envie dans ma sainte style de vie d'acheter ce produit-là. Là. OK? Il est barré de ma liste. Là. Ever! OK?
Ouais.
À moins que j'ai vraiment besoin, puis c'est la seule marque qui existe, là, je veux à jamais acheter ça. Mm-hmm. Pourtant, leur but, c'est de me vendre quelque chose. Tu sais.
Ben, écoute, la chose étant que sur Internet, avec le temps, et si tu entraînes assez bien les cookies et l'intelligence artificielle, ils vont être capables de te proposer des produits que théoriquement tu veux. C'est ça la game de
oui, je suis d'accord avec ça. Le pire, c'est que je regarde mon feed Facebook. Puis des fois, il y a des annonces qui m'intéressent assez pour que je clique pour regarder.
Et
si,
voilà.
Il enregistre,
tu sais, il sait. Puis si tu vois quelque chose que tu veux pas, tu peux dire non, je veux pas ça parce que ça m'intéresse pas. Puis lui, il va l'enregistrer. Mais là, je pense qu'on tergiverse encore un petit peu. Je vais essayer de ramener de la conversation sur le sujet.
On ramène la...
Mais non, donc c'est ça, la télévision...
On va ferrer la conversation.
Le format télévisuel est en plein changement et CBS a les deux pieds vers l'avenir et je les félicite pour ça. On peut passer au deuxième sujet. La série Picard, on sait toujours pas comment elle s'appelle. Ils ont toujours pas décidé de nom, en ce cas, à ce qu'ils nous disent. Mais on sait une chose, c'est que parce que ça, c'était quelque chose, encore là, j'en avais fait part dans le passé. Est-ce qu'ils vont prendre ce qui s'est passé dans Star Trek 2009 puis l'intégrer au futur de Picard post-Nemesis? Et il s'avère que oui. Donc, la destruction de Romulus va avoir un impact très grand sur Picard, possiblement aussi la disparition de Spock et tout ça, parce que si vous avez vu votre Next Generation, on se rappellera de l'épisode de réunification, parce que justement, tu avais Picard et Data qui étaient sur Romulus. J'ai peut-être l'impression que Picard va essayer de reprendre le flambeau de Spock. Pour essayer de continuer la réunification romulano-vulcaine. Bon, je me sens tout...
Ça va être difficile déjà que Romulus est pas mal explosé, donc techniquement la majorité de son peuple aussi.
Ouais, mais la majorité du peuple, mais on s'entend que c'est un empire, il n'y avait pas juste Romulus. Il y avait un très grand territoire. Si on regarde justement ce qui s'est fait dans Star Trek Online, t'as comme deux factions de Romuliens qui sont créées. T'en as une qui était comme justement plus impériale, un peu comme l'Empire Romulien qu'on a connu, mais l'autre qui est un petit peu plus ouvert à l'image de Donatra dans Nemesis, et ça, un peu plus ouvert vers le monde. Ça crée comme deux factions de Romuliens. La grande question reste aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire de Star Trek Online? Qu'est-ce que Star Trek Online va faire avec une série qui va jouer un petit peu dans leurs pattes? Parce que la série Picard va quand même être... C'est quand même dans le passé de Star Trek Online, mais C'est ça. Donc, j'imagine Star Trek Online, je sais pas s'ils vont se réviser. Est-ce qu'ils vont faire un grand comme... On est dans un autre univers avec un Q qui fait un claquement de doigts ou...
Est-ce que vraiment ils ont besoin de faire ça?
Je sais pas, mais en même temps...
Je sais, quand le film de Warcraft est arrivé, mm-hmm. est-ce que World of Warcraft a changé? Zéro pis une barre.
Non, mais la chose étant que il y avait aucune intention que ça fasse, que les deux fassent partie du même univers, mais là, l'intention de Star Trek Online était que c'était dans l'univers, entre parenthèses, canon, malgré le fait qu'on sait que ça ne le sera jamais. Mais le but de Star Trek Online, c'est quand même de promouvoir le contenu de Star Trek. Fait que c'est un jeu Star Trek Online, puis tu risques pas à intégrer du contenu qui vient d'une série.
Ah, mais quel genre de problème qu'ils vont avoir? C'est quand même encore dans leur passé.
Oui, mais justement, ça peut être bien des affaires, justement, si le développement du territoire humain se fait différemment, ou justement tel personnage meurt, ou un autre tel...
Oui. Franchement, tu sais, ils vont... D'après moi, ça va peut-être faire des différences, mais ça va être subtil, hein?
Je pense pas.
Techniquement, là, à la fin de Next Generation, à la fin du dernier film de Next Generation, les Klingons sont quand même en alliance avec la Fédération.
Mm-hmm.
Puis dès le début de Star Trek Star Trek Online, ils ne le sont plus. Fait que déjà, il y a déjà des événements qui se passent.
C'est ça. Fait que si dans la série Picard, ils sont encore amis, ils sont encore alliés avec les Klingons, c'est déjà une grosse différence majeure avec Star Trek Online. Fait que c'est pour ça que je dis, je suis curieux de voir comment ils vont s'ajuster par rapport à tout ça. Parce que, tu vois, ils ont quand même, présentement, ils ont intégré Discovery avec des vaisseaux, puis avec une petite storyline où ce que tu commences à l'univers de Discovery, puis truc temporel, puis après 2-3 missions, tu te ramasses dans l'univers de Star Trek Online normal en 2508, parce que quelque chose de même. Tu te ramasses dans le présent de Star Trek Online. Et justement, pendant Star Trek Online, il y a la deuxième partie de Age of Discovery avec le vrai Capitaine Keely qui va être mise en ligne, je crois, la semaine prochaine. On va vraiment avoir le vrai ISS Discovery et ce qui se serait supposément passé quand le ISS Discovery serait apparu dans notre univers.
Messieurs, j'ai Sylvie qui mentionne sur les réseaux sociaux que Star Trek Online est axé sur le combat et la guerre et contre les canons.
En effet, je suis entièrement d'accord parce que justement, le focus vers l'action d'un jeu vidéo est entièrement, je dirais pas entièrement, mais est de base incompatible avec... avec Star Trek, parce qu'on parle, tu sais, on parle d'un jeu dans lequel tu commences comme cadet, puis en une mission et demie, tu te ramasses capitaine de vaisseau. Ce qui est comme absolument illogique, à part, bon, dans le Kelvin Universe, mais ça, c'est James T. Kirk, puis c'est pas pareil. Mais c'est ça, donc, je suis quand même curieux de voir, parce qu'ils peuvent, ils ne peuvent pas ignorer le fait qu'il va y avoir une autre série de Star Trek, qui ne peuvent pas intégrer des beaux nouveaux vaisseaux qui vont probablement être développés pour cette série-là. Donc, en tout cas, je suis curieux. Je suis quand même curieux de tout ça. Sinon, on parlait de Kelvin Universe. Star Trek 4, malheureusement, comment on dit en anglais, le projet a été shelved. A été mis sur les étagères.
Glace.
Il est dans le développement L.
Ouais, en développement L, on peut dire ça comme ça. Malheureusement.
Donne une raison.
Ça a pas avancé. Chris Pine n'a toujours pas signé. Et la réalisatrice qui était attachée au projet, S.J. Clarkson, elle vient de signer pour un truc, je pense, pour le prequel de Game of Thrones qui est en préparation. Donc, c'est parce que c'est ça. Parce qu'à un moment donné, quand t'es réalisateur et tu vois qu'un projet avance pas, à ce moment-là, il faut que tu passes à d'autres choses. Tu peux pas rester sur un projet qui... Il faut gagner sa vie en quelque part. T'sais. Fait que c'est dommage, mais ce qu'on... moi, je, j'aimerais ça voir au moins une dernière fois Carl Urban en McCoy.
Oui, il l'a tellement bien.
Et là, qu'est-ce qui arrive du fameux projet avec Quentin Tarantino puis son
équipe? Oui!
On le sait pas. Il n'y a aucune nouvelle à ce sujet-là, malheureusement, mon cher Pierre.
C'est Quentin qui avait dit lui-même que j'aimerais ça faire ça. Mm-hmm. Probablement que Jean, il a proposé ses, il est quand même Quentin Tarantino, il a probablement dit je veux ça, puis il dit oh ouais, on n'est pas sûr, on va regarder ça, puis genre branle une manche comme ils sont, ça va prendre 4 ans, puis il va se taire.
On verra. De façon, pour être bien honnête, on a en masse de Star Trek sur le plateau qui s'en vient. Et une chose que j'ai oublié de mentionner, on a les 4 short treks qu'on a eu les derniers mois, mais il y a 2 short treks supplémentaires qui s'en viennent cet été. Ça va être des short treks animés. Ouais, mes amis. Donc, on va peut-être voir un preview du genre d'animation qui va nous attendre. Parce que, justement, les séries animées de Star Trek vont être faites par une nouvelle branche de CBS, donc CBS Animation. Donc, est-ce que ça va être du dessin traditionnel, du semi-2D? Est-ce que ça va être plus style Clone Wars ou Star Wars Rebellions? Ou plus Star Wars Rebels? Ou on le sait pas encore. J'ai pas de détails là-dessus. Ça va être animation 2D classique, un peu plus à la Rick and Morty. Ça va être difficile à... On ne sait pas encore. Donc, je reste curieux de tout ça. Mais reste que c'est ça. On a beaucoup de Star Trek qui s'en vient et on peut-tu juste être heureux de tout ça pour une fois? Sacrément,
justement, vu qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, d'après moi, les films sont sur tablette en attendant justement que la vibe monte à son paroxysme. Mm-hmm. Une fois que la vibe va être bien forte, c'est là qu'ils vont se dire « Ok, c'est bon, on finance pour un film. » Parce que ces séries-là, là, en ce moment, ils savent que Star Trek a le vent dans les voiles, fait que les séries TV, ils se disent « Ok, c'est bon, on débloque les fonds, puis allez-y. » Mais pour les films, là, ils sont pas mal plus touchy. Ouais, parce que c'est un film qui va coûter une fortune comparé à des films médiocres. Qui vont avoir.
Mais de façon, honnêtement, la place de Star Trek a toujours été à la télévision. Prendre le temps de dire, de raconter une histoire, de développer des personnages, c'est bien le fun des films, mais honnêtement, ça n'a jamais la profondeur d'une saison ou même d'une série d'épisodes. Là, je suis plate. C'est plate, mais c'est... Et quelques exceptions. Mon préféré reste Star Trek The Motion Picture. Je pense que The Motion Picture, malgré le fait qu'il y a certains qu'on peut le trouver plate, je pense qu'il y a quand même une certaine grandeur cinématographique à ce film-là qu'on retrouve pas dans les autres qui serait justement qui aurait au moins été à l'époque difficile de refaire à la télé. Donc dans ce cas-là, je pense que ça ne valait la peine d'en faire un film. Mais pour les autres, c'est juste... C'est plate. La chose étant que quand tu fais un film, il faut que tu attires... Ben, c'est sûr, comme à TV, il faut que tu attires le plus de monde, mais il faut que ce soit rentable comme très rapidement. Il faut que tu fasses un boom, puis faut que tu te battes au box-office. C'est plus difficile. Tu peux pas être juste comme dans la moyenne au box-office. Quand tu fais un film de Star Trek, il faut que ça... Faut, à cette heure, faut que ça score. On peut plus, les films ne peuvent plus juste faire correct au box-office. Il faut qu'ils fassent excellent, sinon il n'y aura pas de suite.
Mm-hmm.
C'est la malheureuse réalité de la business. Donc, en tout cas, on va espérer pour le mieux, mais quand même, ça regarde pas bien du côté de Paramount pour les films. Et ben là, on va embarquer sur... Là, on a un peu... on a un petit questionnaire sur Facebook Live, et là, c'est à 25% partout. Quel est votre short trek favori? Et c'est égal partout. Donc, on a besoin d'un briseur d'égalité. On a besoin de quelqu'un pour briser l'égalité. Donc, Short Treks, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce format-là?
J'adore.
Ouais. J'adore aussi. quand on a fait notre enregistrement qui n'a pas fonctionné la semaine dernière.
C'est un secret.
Ça, c'est, faut pas le dire. Mais ce qui est le fun, c'est que ça a été un format super intéressant pour pouvoir patienter pour avoir la saison 2. Là. Et puis, c'est un peu du développement de personnages. C'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir lire les livres, surtout que ceux qui ne parlent pas beaucoup anglais ou qui comprennent moins bien l'anglais comme moi, c'est plus fun de pouvoir du développement comme ça.
Ouais. Et toi, Pierre?
Ben, moi, comme j'ai dit, j'ai adoré le format. C'était court, ça allait... Ça contenait quand même énormément d'émotions pour si peu de temps. Puis c'est ça, là, j'ai vraiment aimé qu'ils en fassent plus. Oui, je vous en supplie, faites-en plus. ça s'écoute tellement bien. C'est parfait. Mm-hmm. Je ne peux qu'applaudir. Mm-hmm. C'est sûr que, évidemment, sans la série principale, ça serait impossible à faire. Mais ouais. Maintenant, on a toutes les données du gros problème. Ils peuvent se lâcher là pour faire des toutes petites histoires qui, de toute façon, seraient difficiles à bien caser en un épisode complet ou quoi que ce soit. T'sais. Fait que c'est vraiment. Là. Puis en plus, pour la majorité d'entre eux, tout était déjà payé. Je veux dire, le set était déjà là. Bon, oui, il y avait un peu de computer graphique à faire, mais je veux dire, clairement moins que. Pour une série complète. Mm-hmm. Non, c'est très bien.
À part
bien,
peut-être
très,
pour très... un, celui de The Brightest Star, c'est sûr qu'il a fallu qu'ils fassent des décors de A à Z, mais j'ai l'impression vont être réutilisés dans la saison 2 parce que, petit spoiler,
moi,
je pense qu'on...
Quelque chose me dit, moi, que cette set-là devait déjà exister à gauche ou à droite à quelque part pour une autre série. Là.
Non, ça a été fait pour ça, mais... Comme on a vu dans les previews qu'on allait revoir la planète de Saru, c'est clair que ça a sauvé dans ce que tu as mis dans ton budget de Short Trek, ben tu vas l'économiser dans ton budget de l'épisode.
Ouais.
D'ailleurs, j'aime raconter cette anecdote-là, mais la raison pourquoi dans Encounter at Far Point, on voit la salle des machines... C'est parce qu'au départ, ce décor-là n'était pas dans le script. Et donc, il n'y avait pas besoin de construire le décor pour l'épisode. Mais là, ensuite, tu aurais été pogné pour faire la salle des machines avec le budget d'un épisode normal par la suite et non pas avec le budget de l'épisode pilote. Donc, justement, c'est pour ça qu'il y a reçu la petite scène où ce que Picard se promène dans la salle des machines. C'est un peu par rapport, mais c'est vraiment juste pour justifier le coût de créer le décor. Donc, une question budgétaire là-dedans. pour en venir aux Short Treks, c'est ça. Bon, on a comme... c'est ça. Donc, on a Runaway, Calypso et Escape Artists qui, c'est sûr, ont visiblement... C'est vraiment ils réarrangent un petit peu les décors, à peine ou pas du tout. C'est vraiment les acteurs qui sont mis en premier plan. Et c'est quelque chose qui est absolument fantastique. On peut peut-être faire le tour. Donc, le premier, on a Runaway avec justement avec la future femme à Marc, Tilly.
Je l'attends.
Tilly qui... comment cet épisode? Donc, c'est après la finale de la saison 1, on voit qu'elle est enseigne et elle est dans le Command Training Program et visiblement, elle est en communication avec sa mère. Évidemment, sa mère n'approuve pas et tout ça. Donc, et ensuite, elle rentre en contact avec une extraterrestre qui est faufilée à bord. Il se lie d'amitié et il partage... une amitié instantanée par la suite après un petit peu de food fight synthétisé. je pense que moi je vois ça comme un bel épisode pour les jeunes adultes. Je pense que apprendre à faire face au monde et à faire face à
son podcast.
Eh ah. Oui, ça... Hey, hey.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais pas, ça a juste déconnecté, mais on est de retour. On peut pas, on oui, peut pas mais... se sauver.
Visuel a changé. Je sais pas si on est encore toujours pareil dans la diffusion.
Oh, oui, oui.
On est gelé.
Ah, c'est ça. Mais vous allez dégeler dans pas long sur le Facebook Live, c'est pas pire.
Ok.
Inquiétez-vous pas. Oh, non, en fait. Deux secondes. Je sais pas
ben,
si...
Ouais, on dirait, ouais, c'est ça. On dirait qu'on a vraiment gelé, moi puis lui, alors que pour lui, dans notre conversation... De notre côté, tu parlais, puis on t'entendait plus.
Ah, ben c'est ça, c'est parce que ça a déconnecté de mon côté. Et... Et là, non, vous êtes des belles images toutes figées. Mm-hmm. Deux instants, je vais juste essayer un petit quelque chose ici. Si on est que ça ici.
Ça, Sylvie me dit que tout allait bien, par contre.
Au niveau du son, ça fonctionne. C'est déjà ça, mais...
Ouais.
Non, c'est ça. Non, ça y a quelque chose qui n'a pas passé.
Le JP nous a déconnectés pour voler la vedette.
Est-ce qu'on est revenu?
Wow, oui, vous êtes là, vous êtes là. Okay.
C'est bon, OK.
C'est vraiment juste le petit vidéo. Je voulais faire beau, je voulais mettre des vidéos pour tout le monde, mais évidemment, il faut bien que ça ne marche pas quand on essaye ça. Hein.
Ouais.
Ça marchait trop bien. On s'en
pas fait. Grave, on continue à parler.
Ben oui.
Donc c'est ça, ben là, pendant que je gosse avec ça, allez-y, parlez-nous de vos impressions pour Runaway.
Runaway, très bonne émission. Je sais pas ce que tu disais tantôt, mais j'espère que tu as dit que c'était quand même un épisode qui avait été fait direction de femmes. Tout ça.
Oui.
Personnellement, juste des personnages féminins qui étaient assez intéressants. Moi, j'ai bien aimé la partie des translators. On a vu comment ça fonctionne, les premières, parce que nous autres, on est habitués, le translator fonctionne à part à Damoc puis tout ça. Mais c'est quand même intéressant de voir les débuts de cette technologie-là, qui est quand même à ses débuts. On le voit dans l'épisode où on apprend un peu le Klingon, comment fonctionne le Klingon au début. C'est ouais. Intéressant. Moi, j'ai aimé la relation avec un personnage qu'on j'espère qu'on va revoir dans les séries ou espérons.
Et toi, JP, mon cher Pierre?
Ben, JP, moi, je peux d'abord dire qu'on dirait que nos vidéos ne sont plus dans le...
Non, malheureusement. J'essaie de les remettre, mais ça ne fonctionne pas. Écoute, à moins, on va ranger ça. On espère que la prochaine fois, ça ne déconnecte pas.
Bah. Ben, si t'aurais pas essayé de mettre une vidéo. Anyway!
Ah, qu'est-ce que tu veux?
Ben, en tout cas, Runway, moi je peux dire que... ben, au début, c'est pas le premier épisode que j'ai écouté. Moi, le premier épisode que j'ai écouté, moi, c'était l'épisode avec Mod. Mm-hmm. Je voulais absolument voir ça. J'avais tellement trippé sur Mod dans la saison 1 que je voulais absolument le voir en premier. J'ai trouvé ça bon. Mais, puis surtout un revirement complètement inattendu qui m'a fait hurler de rire. Mais non, Runway a été me chercher puis a pris la place de mon épisode favori des Short Trek. Ouais. Vraiment, je l'écoutais puis je me disais, oh mon Dieu, c'est donc ben beau, c'est donc ben bon, ça va tellement chercher. On voyait les personnages vulnérables. Mais tu sais, qui se ressemblent, mais se complètent. Je voyais vraiment, tu sais, genre, ça allait chercher dans des gros tons d'émotion. Non, vraiment, là, c'est vraiment mon épisode préféré. Je trouve vraiment que l'actrice qui fait Tilly est excellente. C'est vraiment une très, très bonne actrice. Puis l'autre actrice qui avait fait l'autre personnage, je trouvais qu'elle l'a très très bien eu.
Ouais.
Tu sais, son maquillage était très bien, les effets spéciaux étaient bons, pas trop exigeants, mais très très cool. Le food fight était hilarant. J'ai pas vu un aussi beau food fight depuis Ruby, qui est un dessin animé sur du temps passant, là. Fait que donc c'est clairement pas la même façon de faire. Mais tu sais, en tout cas, c'était vraiment, vraiment le fun. J'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode-là.
Et ben un petit coucou à Hélène et Steve qui se sont rejoints. Désolé, oui, j'ai volé la vedette à Marc et Pierre. C'est, je vous jure, c'est vraiment On va essayer d'arranger ça pour les prochains. C'est pas un long trek. Il n'y a pas de problème technique. Si on passe au deuxième short trek, donc on parle de Calypso. Je pense que c'est l'épisode le plus... Je dirais pas mystique, mais en tout cas, il y a clairement quelque chose de spécial avec cet épisode-là. Premièrement, le fait que ce soit 1000 ans dans le futur, c'est déjà quelque chose auquel on ne s'attendait pas vraiment. Qu'est-ce que Discovery fait 1000 ans dans le futur? Bonne question. Je vois que moi...
Discovery fait qu'il marche encore 1000 ans dans le futur.
C'est ça. Donc, on retrouve Discovery sans équipage, avec une intelligence artificielle qui se lie d'amitié avec un réfugié, quelqu'un qui se sauve de la guerre. Ceux qui connaissent la mythologie grecque, c'est une petite partie de l'épopée d'Homère qui est un peu racontée au travers de cet épisode-là. Moi, j'ai pensé tout au long, est-ce que c'est un faux vaisseau, est-ce que c'est une simulation, est-ce que je m'attendais à ce qu'il y ait un punch. J'étais un petit peu mystifié du fait que non, ils ont vraiment comme tenu le coup et c'est vraiment comme 1000 ans dans le futur, Discovery est là, puis dealer avec. Là. Donc, je suis un peu agréablement surpris dans ce sens-là. Là. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi.
Vas-y, Pierre.
Ben, moi, j'ai eu un genre de feeling à la Wall-E en l'écoutant. Dès le moment, là, genre, parce que, on voyait faire l'espèce de danse puis les choses comme ça, là, ça me rappelait dans Wall-E, Gene Hackman, puis whatever, là, je voyais ça, puis je me disais, c'est donc ben cool. Puis, ça me rappelait ce petit clin d'œil-là, et c'est ça, tu sais, c'est vraiment encore plus loin dans le futur, mais ils voient encore des vieilles affaires de notre passé. c'est presque un clin d'œil à The Orville, qui voyait des affaires de notre glorieuse époque de TV poubelle à
Télé 4
saisons. La saison a plus de mérite que ces fichues émissions de réalité. Whatever. C'est ça. Non, je trouvais ça bien. Le gars avait un passé qui se faisait assez vite, assez bien. On voyait encore une fois une autre version, une version différente d'une intelligence artificielle qui a pris vie. Ouais. Je trouvais ça bien parce qu'elle savait qu'elle était artificielle. Puis genre, tu sais, dès le début, elle disait « Ah! Oh, tu pensais que j'étais vrai? » Tu sais, genre, non, j'étais artificielle. Non, je suis moi-même. Non, c'est ça. Tu sais, il était en train d'avoir des émotions avec lui. En même temps, tu sais, elle a des règlements qu'il faut pas
qu'elle a
des ordres, puis elle obéit à ses ordres. Tu sais, fait que, genre, c'est vraiment un point de vue spécial, étrange, nouveau. Mais encore une fois, je me pose la maudite de question, comment ça se fait que le ship est encore un seul morceau? L'énergie, elle doit être déjà à bout. Avec le nombre de météorites de cossins qui se passent, puis il n'a jamais été retrouvé. 1000 ans plus tard, les senseurs sont pas plus puissants que ça. Techniquement, on a vu le Voyager se promener à quelque part, puis il y avait un scanning pratiquement jusqu'à la micrométéorite près, là. Puis genre, ça, c'est 1000 ans plus tard, je suppose. Est-ce que c'est vraiment important?
Regarde, le vaisseau est équipé d'un moteur sporique, donc il pourrait se retrouver n'importe où dans la galaxie. On va dire ça.
Ouais, qui est censé être activé par un être vivant.
Ben, c'est ça. On sait pas. La chose étant, je me pose la question. Est-ce qu'on va savoir ce qui va se passer? Ce qui va s'être passé pour causer ce...
Je pense pas. Puis ça n'a pas besoin. qu'on le sache. Sérieusement, non. Ça se tient entièrement par lui-même. Le monde ont voulu... Les auteurs ont voulu créer cette histoire-là. L'histoire se tient en elle-même. Elle n'a pas besoin d'absolument rien. Elle est belle, elle est super. Puis je pense que tu avais dit aussi que c'est une des histoires qui avait été les plus populaires en termes de code d'écoute.
J'ai pas de... Je sais qu'elle a plu à beaucoup, à la majorité des gens. C'est ça, la chose étant, code d'écoute. J'ai les codes d'écoute pour la saison 1 de Discovery au Canada, parce qu'au Canada étant la seule place au monde où ce que c'est diffusé à la télé. Cependant, Short Trek, malheureusement, je n'ai accès présentement qu'au top 30 télévisuel à chaque semaine. Donc, ouais, je pourrais peut-être en parler par après. Je vais en faire une petite note. Je vais rajouter ça dans mes notes, dans mes notes d'émission, marqué code d'écoute. Mais non, c'est ça, malheureusement. Mais je sais simplement que ça l'a plu à beaucoup de gens. Là, c'est. Et c'est d'ailleurs, ça a été écrit par Michael Chabon, qui est un auteur reconnu mondialement. Il a gagné un prix Pulitzer et il est attaché à la série avec Captain Picard. Donc, si vous aimez l'écriture dans Calypso, j'espère que vous ne serez pas déçus de la série Picard parce que ça va être un des scribes principaux attachés à cette série-là.
Oh ben, sérieusement, oui, le script était la force de ce... De cet épisode-là. Je pense que le script est la force de tous les Short Trek.
Ouais.
Parce que c'est vraiment... Il n'y en a aucun qui est désagréable à écouter, que l'histoire est insignifiante ou que le cas nous... Il n'y en a aucun qui est mauvais. Mm-hmm. Ils sont tous bons.
C'est pas nécessairement mauvais, mais ça, c'est des épisodes qui, dans un épisode complet, auraient été comme des points... ce qu'on appelle en anglais des B-plots. Des histoires qui sont pas tout à fait reliées à l'histoire principale, mais qui rajoutent un petit quelque chose à l'épisode principal. Sauf qu'au lieu d'en faire un B-plot, ben, ils en ont fait un épisode vraiment juste ficelé tête avec 15 minutes. Si on passe au troisième, The Brightest Star.
Je pense que Marc a pas parlé, par exemple.
Ouais.
Ah, ben, excuse-moi, Marc. Je me suis tellement emporté. Vas-y.
C'est sûr que vous avez pas mal tout dit, mais sauf que moi, ça m'a fait penser au film Passenger.
Ah, ben oui. Oui, tout à fait.
Un petit peu, surtout la passe où ce qui est seul pendant quelques mois, là. Mm. Ouais, même quelques années avant de décider de réveiller Jennifer Lawrence.
Ouais, Jennifer Lawrence.
J'ai vraiment pensé à ça. Alors, sauf que là, dans cette émission-là, il fait affaire avec un robot dans ce film-là, qui est le barman. Là, c'est à peu près la même chose, à part la petite histoire d'amour. Ça me fait vraiment penser à ce contexte-là. Mais sinon, le reste, c'est pas mal comme vous autres. Là, j'ai pas grand-chose à rajouter. Là, vous avez pas mal tout dit.
Donc, The Brightest Star, ben, puisqu'on t'a pas laissé la chance, Marc, vas-y, parle-nous de tes impressions de l'épisode avec Saru.
Ben moi, j'ai pas vu, comme je disais tantôt, le livre où ce qui explique qui est Saru au début. Alors, j'ai été content de voir qui était vraiment Saru, comment il a été découvert, comment ils ont interféré un petit peu avec la Prime Directive, mais on va dire qu'il était assez intelligent pour être au-dessus de la Prime Directive, mais... Comme j'avais déjà mentionné, pas ici, mais dans un épisode qui n'existe pas, j'avais dit que moi, ça me faisait penser un peu à The Hunger Games, au début, quand ils se font choisir pour aller faire aller dans l'aréna. C'est à peu près la même chose, sauf que c'est pas le même but. Les autres, ils vont se faire manger en réalité, là. Mais ça me fait penser à la même chose. Ils attendent, c'est leur but d'être choisi en. Eux autres pensent que c'est autre chose que ce qu'ils vont avoir en réalité. Mais je trouve ça super intéressant de voir les origines de Saru.
Ouais. Et toi, mon cher Marc, mon cher Pierre, pardon. Je me trompe de tête.
Qu'est-ce qui m'a impressionné, moi, c'est vraiment, on voit Saru comme étant justement le Chekhov de cet équipage-là. Le génie. on parle d'un gars qui, uniquement avec une technologie super avancée, avec qu'est-ce qu'il y avait entre les mains d'une technologie qui est alien, a réussi à prendre cette technologie-là, puis à la modifier pour en faire complètement autre chose. C'est comme si mon cellulaire tombait entre les mains d'un Australopithèque qui réussissait de s'en... bon, j'exagère, un Australopithèque, au moins un Homo sapiens, genre première version. Là. Ouais. Parce qu'on a des sapiens. Là. Enfin, bref. Puis qu'ils réussissent à... carrément le formater et puis changer toutes les apps qu'il y a dedans, là, tu sais. Mm-hmm. Encore là, même mieux, là, genre qui réussissent à le démonter puis à changer le stuff qu'il y a dedans pour en faire un émetteur radio, là, tu sais. Excuse-moi, je suis technicien en électronique puis je suis pas capable de faire ça, là, tu sais. je comprends la technologie qu'il y a là-dedans et je ne suis pas capable de le faire. Fait que ce gars-là là, est un fichu génie, ou ben d'abord la technologie qui a servi à ça est vraiment une technologie d'enfant de 5 ans et demi. Hein, c'est fou. Puis, oui, tu mentionnes la Prime Directive. Je suis d'accord, mais en même temps, elle le dit elle-même. Oui, il faut qu'on... On fait une entorse au règlement parce que t'es quelqu'un d'exceptionnel, puis on pense que tu pourrais devenir quelque chose de grand pour nous, pour l'univers, être le futur de ta race, etc. Tu sais, c'est... Il a ouvert une porte, puis genre, il apprend, puis c'est vraiment un bon épisode, c'est un très bon épisode. Mm-hmm. Que tourner en extérieur, je sais pas.
Oui, sur les belles plages d'Ontario. Oh,
mon Dieu, les plages, autant qu'en Québec. Mais bref, non. C'est un bel épisode. Hey, puis en plus, crème, leur maquillage, et plusieurs fois les maquillages, les masques, tout le kit, puis genre, il allait dans l'eau avec ça. Crème, je connais des cosplayers justement qui se font à. Qui se font des cosplays puis qui vont dans l'eau avec le cosplay puis ils se disent c'est une des affaires que tu as le plus peur que tu peux pas faire de ta vie. Ouais. Ce que tu t'es cassé le cul à faire va être mouillé, donc très grande chance d'être scrappé. Puis en plus, généralement, quand tu fais ça, c'est pour faire des belles photos. Fait que c'est une bonne chance que tes photos soient scrappées.
Mais c'est sûr que de nos jours, ils ont des techniques tellement plus avancées que ce qu'il y avait même juste il y a 15 ans. Écoute, les masques sont faits en impression 3D à cette heure. C'est tellement plus avancé que ce que Michael Westmore avait à l'époque. Ça se compare même pas. Fait que ils ont du fun puis ils s'amusent avec. C'est le fun à voir, tu sais. Donc, c'est ça. Puis en plus, il faut dire aussi, ils ont eu de la pratique avec sa route durant la première saison au niveau des make-up aussi. Fait que je pense que ça prend main d'aide. C'est pas comme si tu avais à faire 15 nouveaux extraterrestres complets pour un épisode. Là. Ils ont du temps de pratiquer pour l'application sur l'acteur pendant une saison complète. Là. Donc ça moi j'ai bien aimé, justement j'ai apprécié le développement Saru. On voit justement il était un petit peu plus jeune, un petit peu plus naïf, et cependant ça n'empêche pas qu'il remet c'est comme le seul dans toute la gang qui remet son existence, sa place dans la société en question, on voit vraiment le au fil de son développement, moi, ce qui m'a un peu touché, c'est justement quand il voit sa sœur juste avant de partir. On se doute déjà qu'il reviendra, qu'il la reverra pas. Et la décision de prendre, de quitter son, de quitter sa famille, malgré le fait que tu sais que tu t'en vas vers quelque chose de meilleur, mais t'es obligé de laisser ta famille derrière. c'est quelque chose qui est jamais facile. C'est des choses que des gens doivent vivre à tous les jours. Je sais que justement, Bo Yeun, qui elle-même est coréenne, elle a mentionné que justement, il y avait une certaine influence par rapport à l'histoire entre la Corée du Nord et la Corée du Sud d'engrainer dans cet épisode-là. Puis je pense que c'est peut-être par rapport à ça aussi, le fait de, ça, de se rendre compte qu'il y a quelque chose de pas bon dans l'environnement de ce que tu vis. Tu veux t'en sauver, mais tu es obligé de faire des sacrifices pour ton bien personnel plus tard. C'est quelque chose qui est très touchant, qui mérite un peu de réflexion.
Comme Anakin dans l'épisode 1.
Aïe, aïe, aïe. Sinon, bon, il reste donc l'épisode avec Mod, Sipping Jippers on a Beach Someday. Donc, Marc, Pierre, vos impressions générales?
Moi, je me rappelle pendant un épisode Discovery, quand on a fait l'analyse et que j'ai dit que je détestais Mod. Maintenant, je l'adore.
Tu aimes détester Mod, c'est différent.
Non. Je détestais le personnage, mais ça, c'est simplement dans l'épisode où ils vont sauver Tyler. Mais Tyler a réussi à sortir avec leur cas. Ouais. Mais après, c'est sûr que l'épisode de Time Loop, j'avais quand même aimé l'épisode. Mais là, Mod, c'est là qu'on découvre comment il est manipulateur, gros parleur. C'est débile comment il est. Tu sais, quand tu l'as vu dans TOS la première fois, c'est juste un gros con, là. Ouais. Mais là, le personnage est tellement hot. Rainn Wilson, il est trop hot. Quel acteur! C'est débile.
Et quel réalisateur aussi. Ce personnage-là.
Oui, réalisateur aussi, bien sûr.
Parce que justement, il a réalisé l'épisode. Et justement, l'auteur, encore une fois, est Mike McMahon, qui travaille présentement sur Lower Decks. Donc, encore, on a un petit... Je pense que c'est un petit aperçu sur quel genre d'humour on peut s'attendre de la part de la série Lower Decks. Et d'ailleurs, je vais le re-mentionner. Si vous n'avez pas lu, il y a un livre disponible sur Amazon, Star Trek Season 8, le guide à la saison 8 de Star Trek The Next Generation, qui est écrit par Mike, qui est dérivé de son compte Twitter Star Trek Season 8. Et ça raconte une saison fictive de Star Trek The Next Generation qui aurait été réalisée en secret parce que Paramount voulait continuer à faire de Star Trek The Next Generation, mais l'équipe ne voulait arrêter, donc ils ont fait une saison avec entièrement très très horrible et qui n'a jamais été diffusée. C'est un peu le principe du livre, donc et le livre, on a comme les 26 épisodes de cette série, de cette saison fictive. On a comme un résumé de ce qui se passe dans l'épisode. On a même des gaffes et des bloopers et des petites notes de production qu'on a toutes fictives, évidemment. Ils étaient tellement écœurés qu'ils ont tout filmé ça en une nuit. Puis on voit à tel moment dans l'épisode, on voit. Preneur de son ou whatever parce qu'il s'en foutait. Donc j'ai lu quelques épisodes de ce livre et ça me donne un bon espoir pour, et en plus avec l'épisode de Mod, ça donne un très très bon espoir pour ce qui s'en vient. Pour en revenir à l'épisode, j'ai aimé, moi je trouve le punch avec les androïdes à la fin, il fait vraiment un bel hommage à la série originale. C'est quelque chose que, tu sais, des androïdes un peu c'est quelque chose qu'on, oui, on a vu dans Star Trek, mais principalement dans la série originale. On a vu justement l'épisode iMod, et on a vu ça aussi dans What Are Little Girls Made Of. Il y a une certaine, la manière que les androïdes ont été montrés, c'est vrai, ça fait vraiment très série originale tant qu'à moi, là.
Moi, comme j'ai dit, c'est le premier épisode que j'avais écouté. Vraiment, ça m'a impressionné. Il était hilarant. Mod, moi, dès le début, il m'avait plu. De par sa... sais, je savais que ce gars-là, c'était un character relief, mais en même temps, que c'était un bad guy. C'était un bad guy, drôle, manipulateur, whatever. Je voyais le style parfaitement, puis j'aimais ça. J'aimais ce que je voyais déjà dès le début. L'épisode où est-ce que avec le time loop était génial. Mm-hmm. J'avais adoré ça. Justement, la mention de pénétration de, de baleine spatiale. Ouais. Oh mon Dieu, que je l'ai ri celle-là. Oh. Puis cet épisode-là repose sur ses épaules à tout point de vue. Là. Ouais. Autant en tant que réalisateur, en tant qu'acteur. Je sais pas c'est qui a écrit le texte, mais c'est savoureux. Mm-hmm. En plus, c'est quelque chose qui n'a pas dû coûter tant cher que ça. C'était du recyclage de 7 des affaires dans même. Mais mon Dieu! En plus, je m'y attendais pas, moi, à cette fin-là.
Personne s'y attendait.
Personne s'y attendait. C'était. Hein! Mais voyons donc, tu niaises.
En plus, après ça, tu te rends compte que tous les flashbacks font du sens parce que c'est pas des flashbacks de lui, c'est des flashbacks des autres androïdes. Tu sais, ça fait du sens d'une shot.
Oui, tout fait du sens, puis tout est. Tu sais, l'épisode qui n'a pas été enregistré ou ce qu'on a discuté, on s'était disputé sur le point de vue que ces droïdes-là ont l'air trop avancés versus Data qui est pourtant fait plus tard. Et moi j'avais stipulé que ces robots-là ne servent qu'à une chose, c'est de mimiquer un être humain. Alors que Data est un autre niveau de technologie absolument d'une avancée incroyable. Tu sais, les cossins, ils sortent de partout. Il est capable d'ouvrir des portes avec un truc qui sort du bras. Je me demande même pourquoi il n'y a pas un phaser intégré. il sert de bouée de sauvetage, dois-je vous rappeler? il y a tout Data, là, puis il est ultra avancé techniquement. Fait que ces autres androïdes-là sont beaucoup moins avancés, plus faciles à démonter, avec un cerveau positronique très, très, très inférieur.
Il est positronique, il n'y a rien qui nous dit que ça pourrait être d'autres choses. Là, je pense que ce qui fait en sorte que Data était spécial, c'est que Tech, c'était un cerveau positronique. C'est du Trek blabla. Honnêtement,
c'est pas du Trek blabla, c'est du Asimov. Parce que les cerveaux positroniques viennent d'Asimov. C'est un beau clin d'œil à Asimov. Ça, j'ai toujours trippé là-dessus. Il n'y a pas de guerre à avoir entre ces androïdes-là et Data. Là. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir.
Je t'en prie,
vas-y.
Je me rappelle avoir mentionné un point. Il n'y a rien qui nous dit que cet épisode-là ne se passe pas après l'épisode de la série originale où ce que justement Mod se retrouve sur une planète d'androïdes. Parce qu'on sur l'épisode iMod. On avait retrouvé Mod avec des androïdes. Je pense qu'ils prenaient une autre galaxie ou quelque chose de même. Puis ils avaient réussi à recréer une version androïde de sa femme, Stella. donc, on sait qu'à partir de ce moment-là, il était capable de recréer n'importe qui en format androïde. Donc, il n'y a rien... Comme je te dis, il n'y a rien dans l'épisode qui laisse... C'est pareil pour l'épisode Runaway. On sait que ça se passe après un événement X, mais on n'a pas de date précise, de moment précis à mettre dans un calendrier. Ça se passe en tel ou tel épisode. Donc, il n'y a rien qui. Pour ceux qui veulent dire, dans leur tête, des androïdes, ça n'existe pas, whatever, ça existe, mais deux, ça pourrait facilement être comme le mode de 10 ans plus tard. Avec une fois qu'il s'évader de la planète des androïdes après s'être fait une multiple copie de lui-même pour se refaire en cache. C'est ça la beauté de l'univers de Star Trek. Au bout de la ligne, là, après un peu de temps, on est tous capables de faire du sens des petites différences de scénarios qui concordent pas toujours ensemble. Bonjour.
Bonjour.
J'ai fini, là, j'ai fait mon point, là. Donc, un autre bel épisode. Donc, ça fait le tour. Donc, on a deux autres short tracks qui s'en viennent cet été. Ça va être animé. On ne sait pas sur quel sujet. Est-ce que ça va préparer pour Picard? Moi, je suis curieux. Est-ce que je suis curieux? Est-ce que si continuer short tracks, est-ce que ça va couvrir l'ensemble des nouveaux des nouvelles séries ou ça va vraiment être juste Discovery? Je suis quand même curieux de voir comment ils vont tous ficeler ça ensemble. Mais est-ce que ça va être intéressant? Il nous reste maintenant 3 dodo, je pense, avant saison 2.
Lundi soir, mardi soir et mercredi soir.
Ouais, c'est ça. Donc, ça va être ce jeudi à 20, je pense que c'est 20h sur Space et 21h
sur Z.
Donc, saison 2 qui commence en force avec Captain Pike qui va arriver sur le USS Enterprise. Sur le USS Discovery. On va partir à la chasse à l'ange rouge. Et on a Spock avec une barbe, avec une fière.
Et un sourire. Barbe,
et un petit sourire en coin. Qui vont se pointer sur Discovery. Spock, je ne sais pas s'il va se pointer au premier épisode. On a vu qu'il va être, il va faire partie intégrante de la deuxième saison malgré tout. Des attentes, des impressions, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez vu des trailers jusqu'à date?
On va avoir des rires, on va avoir des pleurs, on va avoir des chicanes, de la violence, de la non-violence. J'espère vraiment qu'on va avoir tant qu'on reste dans l'action puis qu'on fait du développement de personnages, je l'ai dit à la fin de la saison 1, je me suis pas encore attaché à Burnham, je me suis encore attaché à personne. Je commence un petit peu plus à m'attacher avec Saru à cause des personnages, à cause des short tracks. Mm-hmm. On parle pas de Kelly parce que elle c'est Mary Wiseman, c'est différent. Mais j'espère que ça va. Moi, j'ai aimé Deep Space Nine. Je veux que ce soit comme du Deep Space Nine. Je veux que ce soit du politique. Je veux que ce soit il y ait des combats, des intrigues. Je veux pas que ce soit un épisode, une histoire. Je veux que ce soit tout le long.
Ça, je pense que tu ne seras pas déçu à ce sujet-là. Peut-être plus pour l'aspect politique. Je pense que ça va plus être dans la série Picard que tu vas retrouver ça. Je pense qu'on va peut-être plus, dans Discovery, on va plus se concentrer sur l'action puis l'aventure. Mais je pense que c'est l'avantage d'avoir plusieurs séries de Star Trek, c'est que chacun va y trouver son compte dans les différentes séries. Et toi, mon cher Pierre, tes attentes,
mes attentes, en fait, moi, ce que je pense qui va arriver, c'est que ça va ressembler plus à du Star Trek classique. C'est ce que, tu sais, genre, un peu plus proche du Next Generation, du Voyager. Mm-hmm. J'espère avec une touche de Deep Space Nine, comme tu as dit, moi aussi j'aimerais ça beaucoup qu'il y ait de la politique, puis d'après moi ça se dirige un petit peu dans cette direction-là. Pike va être un capitaine totalement différent et ça va faire du bien.
Ouais.
Parce que Pike, c'est un daring aussi, mais c'est pas
reckless.
Il est pas reckless, c'est ça, il est pas méchant, il est bon. Mais tu sais, genre, il y a des principes beaucoup plus solides et il est moins prêt à bender un petit peu les règles, mais quand même, on voit qu'il a l'air du bon bord, il a l'air d'un bon capitaine. Pas que l'autre n'était pas un bon capitaine, Lorca était un capitaine violent, mais qui prenait les mesures qu'il avait besoin pour se rendre où il devait aller. C'est sûr que Giorgio, à l'origine, était mon préféré. Capitaine Giorgio, dès le début, là, c'était ce que je préférais le plus comme capitaine. Ouais, si j'aurais voulu qu'elle reste, mais bon, il fallait s'y attendre. Puis j'aimais beaucoup le Shinzu aussi. Mais bon, peu importe.
Le modèle Eagle Moss du Shinzu est à vendre, mon cher. T'as juste à l'acheter.
C'est le genre d'argent-là. Si j'avais cet argent.
tu fais des beaux yeux, je vais te faire ça en cadeau.
Très bien que j'investirais ça pour transformer mon char en ectomobile, mais bon!
Mais donc...
Ouais, fait que c'est ça. Moi, je m'attends à quelque chose de plus classique. Puis je pense que ça va être quelque chose que justement je vais beaucoup plus apprécier. Et peut-être qu'il va ramener ma blonde aussi vers Star Trek. Parce que je vous rappelle qu'elle avait elle pas été capable de suivre Léon Discovery parce qu'elle trouvait ça que ça s'éloignait trop de ses goûts personnels. Mm. Puis c'est ça. Moi j'aimerais ça que
ça aille. Regarder une série Star Trek collée ensemble sur le sofa.
Genre.
Aïe aïe aïe. Donc, écoute, moi, personnellement, c'est ça. Je m'attends à action-aventure, peut-être, un petit peu de questionnement éthique avec l'implication de la section 31. Ça va être beau. Justement, Capitaine. Agent Giorgio s'est développé avec son collègue qui va être joué par Alan Van Sprang, qu'on a vu dans la petite scène cachée qui a été révélée là, au Comic-Con de New York. On sait qu'il va être présent dans la deuxième saison aussi. Je suis curieux de voir Spock, justement, parce qu'une chose qui est intéressante, c'est qu'on va voir Spock se développer. Parce que si on se rappelle avoir vu Spock dans The Cage, c'est pas pantoute le même Spock qu'on voit dans le premier épisode normal de la série originale. On a un Spock dans The Cage qui est immature, il sourit, il est curieux, il est comme... Il crie un petit peu trop fort sur la passerelle.
Même si c'était pas prévu, c'était un Spock qui était à la recherche de son humanité.
Ouais, peut-être, ou à la recherche de... Mais tu sais, c'est ça, donc je pense qu'ils vont jouer là-dessus, ils vont jouer vraiment sur le fait que c'est Spock qui se développe, qui se recherche, puis je pense que c'est un petit peu... Ça fait du sens, c'est logique. Moi, j'aime cette approche-là, parce que j'ai jamais aimé l'image de Spock qui était 100% vulcain. On dirait qu'il y a toujours... Son humanité était toujours comme mise de côté, puis elle servait juste quand il y en avait besoin, mais on n'a jamais son conflit interne, je pense honnêtement j'ai toujours eu de la misère à le voir. Je sais pas pour vous, mais il a toujours passé plus pour un Vulcain que d'autres choses, et de le voir justement un peu plus fragile à une époque, ça va être intéressant, c'est ce que je peux dire. Sinon, une chose intéressante aussi au point de vue de Pike, c'est que quand Pike arrive, lui, il a pas fait la guerre contre les Klingons de la première saison. Il était dans une 5-year mission et il a fait un rebrousse chemin pour revenir en territoire de la Fédération. Donc, il y a vraiment comme... C'est vraiment comme le capitaine qui a manqué. Tu sais, il y a une certaine culpabilité d'avoir manqué quelque chose. Donc, ça va être intéressant. Et justement, il y a un livre qui a été annoncé hier. Justement, il y a quelqu'un qui va écrire le livre de ce qui s'est passé sur l'Enterprise durant la première saison de Discovery. Donc, durant son 5-year mission, la décision de rebrousser chemin, de retourner en territoire de Fédération... Alors qu'ils apprennent qu'ils sont en guerre, ça va être quelque chose d'intéressant. Donc, j'ai bien hâte de voir ça.
Nous aussi.
J'ai appris aujourd'hui, si vous êtes dans la région de Montréal, il y a un show burlesque à saveur trekkie qui va à Montréal au Wiggle Room ce vendredi. Ça commence à 20... Ben, le show commence à 21h, les portes rouvrent à 19h30. Je vais... parce que je vais être présent et justement, je vais porter mon beau scant pour l'occasion.
Ça reste dans le fond, t'as décidé de nous faire honte sur place, c'est bien.
Ben écoute, c'est un show burlesque, là. C'est comme le but de la chose. J'ai pas été voir cette troupe-là, mais j'ai déjà été voir le Burlesque Geek. Et j'avais bien aimé. Malgré le fait que les femmes ne soient pas tout à fait ma tasse de thé, reste que un show burlesque reste tout à fait le fun, peu importe ta sexualité, je trouve.
Ça, c'est vrai. On a eu bien du plaisir à Las Vegas avec un show burlesque.
Ah, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. On a été au show de... c'était le fun. Il y avait des madames vertes puis il y avait des madames bleues. Ouais. C'est pas parce que c'était de Philippe ou ce qui était malade.
Non. Ce qui était très joli à voir danser.
Donc, je vous ferai un petit rapport de situation lundi prochain par rapport à ça, si tout va bien. Donc, justement, Yann est disponible vendredi, donc on risque d'y aller ensemble avec accompagné de mon chéri André. Bonjour André.
Écoute ce petit André.
Et sinon, une chose aussi, bon, j'avais mis dans le chat sur Facebook un lien vers un petit document Google que j'ai monté. Parce que, en fait, comme j'avais dit tantôt, le Canada est le seul territoire sur lequel Discovery est diffusé à la télé, donc est sujet au code d'écoute. Donc, on a des chiffres solides par rapport à la première run de Discovery, donc aux 15 épisodes. Donc, ce qu'on a au Canada, donc on n'a pas Nielsen, comme on se disait, on a Numéris. Et ce qui est disponible au public, c'est le top 30 à chaque semaine. Donc, c'est ce qu'on appelle le 7-day playback. C'est toutes les émissions rassemblées en territoire anglophone. Il y a un PDF séparé pour les francophones, mais Star Trek n'est pas dedans, malheureusement. Donc, pour tout ce qui est pour tout ce qui est canaux anglophones, c'est le top 30 des émissions pendant une semaine. Donc, c'est pas le top 30 du dimanche, c'est le top 30 pendant une semaine au complet. Et ça comprend aussi, je crois, les enregistrements sur enregistreur numérique. Et Star Trek, à part pour 3 semaines, figure dans le top 30 des émissions canadiennes. Ce qui est quand même très impressionnant parce que quand on regarde le listing, d'ailleurs, vous avez aussi les liens vers chaque semaine. Vous pouvez voir aussi, c'est une des seules émissions câblées qui se trouve dans ce top 30-là. Les autres émissions sont toutes sur CTV, Global ou CBC. Donc, toutes des chaînes généralistes. Durant la première diffusion, ça a été le numéro 1 cette semaine-là, donc du 24 septembre. Ça a été de la diffusion gratuite, celle sur CTV, donc avec une moyenne à peu près de 2 200 000 personnes à peu près. Donc c'est l'émission numéro 1 de cette semaine-là au Canada. C'est pas n'importe quoi. Je pense qu'honnêtement, Space doit être très, très content. Parce que si on regarde après ça sur Space, justement, le même épisode sur Space, probablement les deux épisodes combinés, c'était numéro 4. Ensuite, deuxième semaine, on tombe dans un rythme un peu plus normal. Donc, ça tombe 16e, la quatrième semaine n'apparaît pas dans le top 30. Ensuite, c'est numéro 20, numéro 15, numéro 15, numéro 17, numéro 21, numéro 17, numéro 28. Figure pas, 25, 27. Ce qui est très, 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 très impressionnant comme chiffre. Il n'y a aucune autre série de science-fiction. La seule autre chose geek qui bat ça, c'est The Big Bang Theory. Mais ça, on peut en parler longtemps, Big Bang Theory, parce que on peut se le dire, ça ne vise pas nécessairement les geeks. Je pense que ça vise plus les matantes qui essaient de comprendre les geeks. Ou en tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup de misère avec cette série-là. Ben, j'ai plus l'impression qu'il rit de nous autres, qu'il essaie de rire avec nous autres. Mais en tout cas, chose étant que c'est. Si on regarde, il y a dans une semaine typique, là, on a Big Bang Theory, Young Sheldon, The Good Doctor, NCIS, Survivor, Bull, SWAT, Designated Survivor, Blue Blood, Hawaii Five-O, Grey's Anatomy, MacGyver, oui, Star Trek versus MacGyver, les amis, NCIS, Will and Grace, Saturday Night Live, tu sais, toutes des gros, des émissions à gros calibre diffusées tout au cours de la semaine, et Star Trek qui est comme dans le milieu de cette gang-là, c'est quand même un bel accomplissement, et je pense que c'est signe que la série est un succès. Et ça explique pourquoi on a présentement 4 autres séries en chantier. Donc, je pense que... Bravo aux histoires anglophones. À ce temps, j'aimerais ça être capable de voir Z sur le numéris, sur le top 10 de numéris en français maintenant. Fait que go!
Let's go! Écoutons en masse les francophones.
Ouais. Mais c'est sûr que ça en plus, ça compte pas les vues sur Crave TV, qui est un service numérique. Ils donnent pas leurs chiffres, comme tout bon service numérique. Donc, on peut s'attendre à ce que le nombre de... Parce que, une chose, tu sais, je dis 2 200 000 personnes, ça n'a pas l'air gros, mais en 2000, je pense que le dernier sondage était en 2011 que j'ai vu, il y avait à peu près comme, il comptait à peu près 13 millions de ce qu'on appelle des households, TV households, c'est-à-dire des résidences avec télévision, là, avec un service de câble. Donc, ça reste comme 2 millions sur 13 millions. Ça, c'est en 2011. Il y en a honnêtement, il y a probablement moins de TV household maintenant qu'il y en avait comme il y a 8 ans. Parce qu'on s'entend qu'avec la mode du désabonnement de masse, des gens un peu de notre génération, c'est impressionnant comme chiffre. Donc, excuse-moi, je suis tout... Ouh, c'est le fun. Donc, moi, ça fait pas mal le tour. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de nouvelles parce que Alex Kurtzman était présent au CES, au Consumer Electronics Show. Il a fait beaucoup d'entrevues. C'est dur de parler de tout ça là, d'une shot. On pourrait en parler longtemps. Mais vous pouvez aller voir toujours. Si vous parlez anglais, allez voir sur trekcore.com. Ça reste mon site de référence pour voir tout ce qui s'est dit. Mais en gros, c'est quand même très positif. Pour ceux qui continuent à douter des capacités de Alex Kurtzman, je vous rappelle que lui, son rôle, c'est comme le chef d'orchestre. C'est pas. Il va donner comme les grandes lignes, mais ça reste que il y a des gens très compétents maintenant qui sont attitrés à l'écriture de chacune de ces séries-là. Et que. C'est ça. Donc faut voir avec optimisme maintenant que Discovery est un peu débarrassé de ce que Brian Fuller leur avait laissé avant son départ, avant son départ forcé de Discovery, ils ont un beau tableau blanc devant eux et un avenir très prospère. Et je vois l'avenir avec tout plein de positivisme et de joie et d'enthousiasme. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter avant que...
Ben, moi, j'aimerais te poser une question, mon cher JP.
Oui, mon cher Pierre.
Puisque tu connais tout dans Star Trek. Ces derniers temps, j'ai remarqué une grosse recrudescence en termes des jeux vidéo pour appareils Android.
Mm-hmm.
Puis je voulais savoir si tu en utilisais quelques-uns.
Je suis accroché à Star Trek Timelines, qui est honnêtement, c'est un gros casino. Là.
Il est là depuis un bout, lui, par exemple.
Oui, Timelines. Honnêtement, moi, j'aime bien, mais c'est parce que j'étais avec une gang aussi. Ça aide quand on est en gang, on s'encourage. Puis honnêtement, ce qui est le fun, c'est que c'est pas un jeu qui est en continu. C'est que tu vas faire tes petites affaires, tes petites dailies, tes petits trucs. Tu peux laisser ça pendant 2 heures de temps, tu reviens, tu pèses 3 pitons, tu laisses, tu reviens pendant 3 heures de temps, tu reviens plus tard, tu reviens 3 heures plus tard, tu pèses des 10 pitons. Ça tient occupé quand tu veux, mais tu sais, ça tient pas comme un MMORPG. D'ailleurs, justement, en parlant de MMORPG, l'autre qui est arrivé cette année, à la fin de l'année passée, Star Trek Fleet Command sur Android. Mm-hmm. Qui, ça, c'est vraiment plus un MMORPG où il faut que tu deals quasiment en temps réel à tout moment Est-ce que tu peux te faire attaquer ta base n'importe quand? J'ai donné, mais c'est trop prenant pour ce que je pouvais dealer avec.
Mais tu sais Star Trek Alien Domain Incursion?
Non, j'ai pas essayé ça. Pas encore.
Bon, mais... je vois ça là. J'ai vu ça d'annoncer récemment. Il y en a un autre aussi, hein, que tu montes ta base puis tu m'as. Puis,
ouais,
tu
mais c'est ça c'est Fleet Command, ça.
Ah, c'est lui, c'est Fleet Command.
Mais, c'est ça. Mais il faut dire Fleet Command aussi, c'est pour ceux qui aiment l'esthétique Kelvin Universe. Ben, ça se passe dans le Kelvin Timeline. Donc, avec tous les vaisseaux. Est-ce qu'il, une chose qui est le fun, c'est que les personnages, t'as des personnages comme, mettons, Azed Burr ou General Chang en version kelvinisée. Donc, un petit design. Donc, tu vas pouvoir voir quelques personnages qu'on voit dans des films ou des séries en version Kelvin, ce qui est quand même le fun, je trouve. On voit une certaine synergie. Donc, personnellement, j'aime bien ça. Au niveau visuel, mais comme je disais, le gameplay, malgré le fait qu'il est super le fun, beaucoup trop prenant pour moi et je suis pas capable de délier ça à... Je préfère le type de jeu à synchroniser plutôt que d'avoir à répondre en moins de 30 secondes à une attaque de ma base parce que sinon je vais perdre toutes mes ressources puis c'est trop stressant.
Je suis d'accord avec toi. Je préfère les choses, mais moi j'ai déjà mon jeu qui a rien à voir avec Star Trek. C'est des petites filles dans des robots.
boy. Sinon, parlant de jeux vidéo, j'ai été chercher pendant la vente de feu sur Steam, j'ai été chercher Star Trek 25th Anniversary et Star Trek Judgment Rights, donc deux jeux old school en DOS. Les jeux d'aventure, c'est le fun. C'est le fun sur Steam. Ça vient pré-packagé avec DOSBox. Fait que tu cliques dessus, ça part DOSBox.
Il se passe quoi dans ces jeux-là?
C'est des jeux d'aventure point and click avec la série originale.
Ah, d'accord. Okay. C'est pour ça que je me... C'est mon rapport.
Je sais qu'il y avait un
Rappelez-moi quand Elite Forces retombe.
Bonne chance parce que ça n'a pas bien fini entre Paramount et Activision. Puis j'ai pas l'impression que ces jeux-là vont être édités.
C'est dommage parce que
c'est dommage.
Surtout le deuxième. Le deuxième était super beau. Le premier, moi j'ai adoré l'histoire. Deuxième, l'histoire était moins là, mais les graphiques étaient quand même cool.
Jamais ça tente de gosser, il y a un jeu d'aventure Next Generation qui s'appelait A Final Unity qui a été fait, je pense que ça date de 94-95. C'est comme, tu sais, des jeux en format CD-ROM. mais c'est toujours un challenge parce qu'il faut vraiment que tu rentres ça dans une machine virtuelle avec Windows 95.
Peux jouer sur un de mes vieux ordi avec Windows 95 dessus.
Ah, mon Dieu. mais bon, c'est ça. Donc, il y a du rétro gaming Star Trek à faire. Là. Moi, j'ai acheté ça, mais je vais probablement tricher et regarder des guides en ligne quand je suis pogné parce que les jeux d'aventure, ça reste pas mon. Ah, mon Dieu, Pierre qui sort ça déjà. Oui, la USS Unity.
La vieille Ragnarok team.
donc, ça conclut pas mal ce qu'on avait à dire cette semaine. On va revenir la semaine prochaine avec un compte-rendu d'une nouvelle saison de Discovery, où ce qu'on va tout être heureux et enthousiasme, je l'espère, et avec de nouveaux collaborateurs, si tout va bien aussi. J'ai lancé une ligne à l'eau et j'attends une réponse de certaines personnes pour venir brasser notre cage et avec de différentes opinions et de nouveaux points de vue. Donc, c'est à suivre. Ou comme on dit, à suivre.
À suivre.
À suivre.
Donc, merci à ceux qui nous écoutent en ligne, en direct.
Je peux-tu faire une ou deux petites annonces?
Vas-y, évidemment, vas-y.
C'est pour les Québécois.
Plug ta convention.
Pas juste la mienne, plein de conventions. Alors donc, les 1, 2, 3 mars à Montréal, la convention Draconis, qui est une convention de jeux de rôle sur table, et aussi de jeux de rôle grandeur nature. Je sais qu'il y a un volet grandeur nature. Alors, très, très le fun, très intéressant. Cherchez Draconis sur Facebook, vous allez le trouver. Un festival génial. À Québec, à la fin mars, Nadeshikon, la convention d'anime japonais de Québec, qui va être pour la première fois au Centre des congrès. Oui. On grandit. Et votre humble serviteur s'occupera du marché opus, comme d'habitude, comme à chaque année. Et je vais faire aussi un ou deux petits panels sur des sujets mélangeant la vraie vie et les animés japonais. C'est des choses que j'aime beaucoup. Donc, à part de ça, je sais qu'en fin de semaine, il y a G-Animé dans le coin de Gatineau. Mm-hmm. C'est un petit peu dernière minute, mais allez-y, c'est quand même une convention le fun pour le monde qui sont par là-bas. Sinon, je suis un peu short question convention, mais si je peux donner une nouvelle, c'est que j'essaie de ressusciter l'idée de faire une convention de jeux de rôle à Québec. Mm-hmm. Alors, je relance le produit.
C'est bon. Mais je crois aussi qu'il y a une foire geek qui se prépare bientôt aussi.
Oui, merci, JP. J'allais l'oublier, la foire geek. Je me sais plus c'est quand, mais c'est quand même vraiment bientôt. Je pense que c'est en février. C'est un beau petit événement. Au final, c'est rien qu'un gigantesque magasin avec plein de petits magasins dedans. Mais c'est l'entrée est gratuite. Il y a plein de produits, beaucoup de produits geek qui vient de plein de bons vendeurs, plein de gens intéressants à rencontrer, plein de belles découvertes à faire. Est-ce que tu y vas, JP?
Possiblement. Est-ce que tu m'invites, Pierre?
Je t'inviterai si je m'occuperais de l'affaire, mais c'est une des rares affaires que je ne m'occupe pas. ce sera le fun d'avoir un genre de micro stand, ne serait-ce qu'un pied pour publiciser notre petite émission de radio. On pourra peut-être essayer d'organiser ça.
On verra, Pierre, une chose à la fois. J'ai une grosse année de Star Trek devant nous.
On a une grosse année tout court, nous autres, je pense, à tout le monde. Hein?
C'est sûr que moi, premièrement, je vais déménager. Cet été ou cet automne, j'ai aussi un voyage. Avec Hélène, on essaie de s'enligner pour Baltimore, la convention Shore Leave. Fait qu'on skip Vegas cette année, peut-être en 2020, ou peut-être la croisière en 2020, on verra.
Moi, c'est probablement la croisière parce que je pense pas faire de choses en 2019, à part peut-être à la New York pour...
Ticonderoga. Il y a Dom aussi qui a dit qu'il serait peut-être capable de faire Ticonderoga cette année. Donc, on va peut-être être capable d'y aller en gang.
Moi, je dois dire que en 2020, on va Disney. Fait que,
économise tes sous tout de suite, mon cher.
C'est ça. J'économise
la croisière sous. En 2020.
Ouais, parlant de croisière, il y a un de mes amis, Denis, qui m'a dit que lui, il va aller à la croisière de Star Trek en mars 2020.
Oh!
Ouais.
Bon, on va économiser tout de suite. J'avais vu comme il y a des prix présentement pour des cabines singles, c'est 2600 US.
Clairement dehors de mon budget. J'ai refusé. J'ai refusé d'aller à la convention de Star Trek, pas de Star Trek, mais de Ghostbusters cette année, puis j'aurais vraiment voulu y aller, mais t'es à Vegas, là, Colin, oublie ça. Pas à Vegas, je veux dire à Los Angeles.
Ah non, Los Angeles, c'est ça. Vegas, t'aurais pu t'en sortir parce que les billets d'avion sont pas trop chers, puis les hôtels, ça peut se négocier, mais Los Angeles...
Les hôtels, c'est entre 43 et 80, là, c'est pas la fin du monde. Là.
Ah ouais, c'est ça, ça aurait plus bon sens, mais c'est parce qu'à Los Angeles,
c'est une autre histoire.
Parce que le billet d'avion, par exemple, n'aura pas été cher. Je regardais ça, ça coûtait quoi? 500 quelque chose pour un aller-retour pour deux personnes. Ah. Évidemment, je prenais pas on n'amenait pas cet aile-là parce que ça aurait été bien trop costly. Là.
En tout cas, moi, j'ai vu les images de sa croisière. Là. Une de mes amies que j'ai rencontrée à Las Vegas, Michel Herbert Salcedo, qui a fait des méchantes belles photos. Là. Il y a une photo avec Tachayar qui arrive devant l'ascenseur, puis tu as des bords qui sortent de l'ascenseur. C'est super drôle. Bon, je partagerai Marc, ça si j'ai la permission.
Je vais économiser, puis moi, on prendra une cabine.
Ah, c'est cool. Je veux vraiment y aller à croisière.
Ça, tu me diras, je ne sais pas si... C'est ça. On verra ça, là. On verra la logistique, mais je pense... moi, je serais willing pour la croisière, là.
Et la seule croisière que je fais, moi, je pense, c'est le bateau entre Québec et Lévis.
Ouais, mais si tu imagines, depuis le temps que tu le fais, Pierre, ça fait une longue distance.
Ah, mais j'en fais plus. Je le fais plus.
Ah, c'est vrai, tu le fais plus. J'ai fait une longue distance.
Oui, oui, oui. Anyway, ben, merci tout le monde de nous avoir écoutés.
C'est ma job, ça.
Tel l'USS Phoenix, on renaît de nos sens.
On vous souhaite une superbe émission jeudi.
Ah, ben oui, oui. Un super épisode de Star Trek et plein de nouveaux Star Trek dans vos yeux et dans vos oreilles.
Et un retour encore pour nous lundi prochain.
Oui, oui. Et en toute fonctionnalité, je vous promets à vos faces à 100% du temps ce coup-là.
En faisant une belle petite voix.
Ah, Marc. Bon, ben merci la gang et continuez à nous suivre sur les internets et on se reparle la semaine prochaine.
Bye bye.
Si Dieu le veut.